RFI est là-bas, mais aussi ici. Djibouti Arta, 92 FM.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Demain auront lieu à Paris les 7e rencontres Nord-Sud dont le thème retenu cette année est Sida en Afrique, stop aux tueurs négligés. Alors certes, des progrès importants ont été réalisés. Un nombre croissant de patients bénéficient d'un traitement antirétroviral. Mais la mortalité chez les adultes justement sous traitement ARV reste élevée. Elle varie entre 7 et 30% sur le continent africain. Cette mortalité est directement imputable aux infections opportunistes, aux maladies bactériennes, aux complications liées aux hépatites B et C. Les outils de diagnostic de base sont encore très insuffisamment implantés sur le terrain, de même que l'accès au traitement. Alors comment mieux soigner les patients touchés par ces co-infections avec le sida? Quelle prise en charge dans les pays à ressources limitées? Quels sont les traitements disponibles? Quels sont aussi les moyens de prévention? C'est ce qu'on va voir avec mes invités, le professeur Pierre-Marie Girard, qui est chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, le professeur Serge Éolier du CHU de Trècheville à Abidjan en Côte d'Ivoire, et le docteur Ibrahim Doy, qui est secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le sida au Sénégal. Et vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, nous appeler au 33 1 56 40 18 22. Et nous terminerons en parlant des difficultés d'accès aux soins à Gaza suite au conflit.
RFI.
Professeur Pierre-Marie Girard, professeur Serge Éolier, professeur Ibrahim Doy, bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les trois d'être là. Professeur Serge Éolier, vous arrivez tout juste, vous sortez de l'avion. D'ailleurs, vous venez d'atterrir d'Abidjan. Avant de parler de ces co-infections, j'aimerais bien qu'on fasse un point quand même sur les progrès d'accès au traitement contre le VIH-Sida en Afrique et puis après dans vos pays respectifs. Alors, Pierre-Marie Girard, peut-être d'abord sur le continent africain en général, les progrès d'accès au traitement?
Oui, ils sont indéniables. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, pratiquement aucun patient ne recevait de traitement en Afrique. Et maintenant, on peut considérer que la couverture par les antirétroviraux, c'est le pourcentage de patients qui doivent recevoir des traitements et qui les reçoivent effectivement, varie d'un pays à l'autre, mais globalement, il est de l'ordre de 50-55%. Donc,
des gros efforts. La moitié des gens qui en auraient besoin sont sous traitement.
Alors, gros effort a été fait, puisqu'on partait quasiment de zéro. Encore un grand chemin à parcourir pour arriver à ce qu'on appelle la couverture universelle, c'est-à-dire que tout patient qui devrait en recevoir, les reçoivent effectivement. Grande variabilité entre les pays, on va y revenir.
Alors, justement, alors par exemple, si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, professeur Éolier, on en est où en Côte d'Ivoire?
En Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a des efforts considérables qui ont été faits en termes d'accès aux antirétroviraux. Concernant la couverture, on est aux alentours de 80% de couverture.
80% des patients qui en ont besoin sont sous traitement?
Sous traitement. Les données nationales nous donnent 80%. Vous pourrez avoir des données différentes, des données internationales, mais après, il s'agit de mieux agréger ces données, mais on est aux alentours de 80%. Un autre point qui est important, c'est qu'au-delà de la Côte d'Ivoire même, la plupart des pays africains ont respecté les recommandations de l'OMS qui disait de sortir la stavudine des schémas thérapeutiques, qui est une molécule qui était relativement toxique. Et aujourd'hui, on se retrouve à pratiquement près de 20% seulement de stavudine que l'on retrouve. Mais encore, il y a des disparités. Vous avez quelques pays d'Afrique de l'Est, tels que le Zimbabwe, qui sont à 80% de stavudine fin 2011. Donc, il y a encore des efforts à faire.
Pour donner le bon traitement.
Pour donner le bon traitement, bien toléré, et qui va être pris le plus longtemps possible. Un autre point important, c'est l'accès aux secondes lignes, qui est en train d'augmenter.
Alors qu'on comprenne bien, parce qu'il faut bien réexpliquer à chaque fois aux auditeurs. Seconde ligne, c'est quand on devient résistant au traitement de première ligne.
Les médicaments ne marchent plus. Quand le traitement de première ligne n'a pas marché, il y a un échec. Mais il faut toujours continuer à traiter le patient, parce que l'important, c'est vieillir avec la maladie. Et donc, on passe à des patients que l'on met en traitement de seconde ligne. Mais tout est conditionné par les financements. Je pense qu'il n'y a pas mieux indiqué pour parler des financements que le docteur Ibrahim Doy qui est en face de nous.
Donc on va lui laisser la parole pour parler de cette question des financements. Mais peut-être avant, un petit mot sur la situation au Sénégal. Vous en êtes à quoi comme couverture de traitement?
Bon, mais d'abord, je pense que c'est important donc, de signaler qu'au Sénégal, nous avons lancé la première initiative d'accès au traitement antirétroviraux en 98 déjà. Parce que ce n'était pas évident au départ. Hein, parce qu'on avait pensé que les antirétroviraux, ce n'était pas fait pour l'Afrique à l'époque.
Bon, je pense vous avez montré le contraire.
Voilà, il fallait démontrer donc, le contraire. Et depuis cette époque, je pense que nous nous sommes battus aussi pour jouer un rôle important dans la réduction des prix des traitements antirétroviraux. Parce qu'à l'époque, quand on démarrait, le coût du traitement tournait de la trithérapie sur l'année, tournait entre 10 000 et 20 000 dollars à l'époque. Et je pense que le prix, on l'a fait réduire de jusqu'à 500 000 dollars à l'époque. Bon, aujourd'hui aussi, je pense qu'il y a de grands efforts qui ont été faits par rapport à ces réductions des prix. C'est important d'en parler parce que si aujourd'hui on se retrouve avec une trithérapie puissante qui, avec un seul comprimé, qui tourne autour de 180 dollars sur l'année, je pense que là, c'est, on peut parler de forte réduction des prix. Bon, maintenant, le problème qui se pose, comme Serge l'a dit, et certes, je ne peux pas, au Sénégal, nous sommes à entre 70 et 80 % de couverture. Et le Côte d'Ivoire et le Sénégal, je pense, c'est deux pays qui, très tôt, ont réagi par rapport à l'accès au traitement. Et la Côte d'Ivoire, avec les premières recherches qui ont été faites avec l'ONICIDA, en 98, c'était à la même période. Mais je pense qu'il est important de dire que dans beaucoup de pays africains, ce n'est pas le cas. Hein. On me parlait hier d'un pays qui, avec les problèmes qu'il y a au Fonds mondial, il y a une interruption, qui, c'est en Afrique de l'Ouest.
Quel pays, dites-nous ?
Bon, on me parlait du Bénin, où il y a de sérieux problèmes actuellement. Bon, donc je pense qu'il y a d'autres pays aussi qui, aujourd'hui, subissent...
ne sont pas ce taux de couverture que vous annoncez,
voilà,
que ce soit
le taux de
Côte d'Ivoire et au Sénégal.
Voilà.
Et on était en train de parler de la question des traitements de seconde ligne. Donc ces traitements, pour le coup, sont beaucoup plus chers et ça pose un problème au pays.
Bon, mais je pense que nous, en Côte d'Ivoire, tout comme au Sénégal, si nous voulons être vraiment à un niveau standard comme en Occident, nous devons être même aux troisième ligne. Hein, parce que déjà, il y a des résistances avec les secondes lignes.
Et ils sont disponibles, les troisièmes lignes au Sénégal, bon, par exemple ? Vous en avez ?
Nous allons commencer un premier essai avec donc l'IMEA, et dans le cadre de notre projet ANRS. Et c'est un essai...
L'ANRS qui est l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites.
Effectivement, multisite. La Côte d'Ivoire aussi fait partie de ces sites. Et je pense qu'il est important qu'on anticipe sur cela. Aujourd'hui, les traitements de troisième ligne coûtent très cher. Et l'avenir aussi n'est pas aussi rose dans la mesure où nous avons pensé que les laboratoires pharmaceutiques n'allaient pas revenir sur les problèmes de droit de propriété intellectuelle. Et déjà, avec les troisièmes lignes, je pense que nous devons... Ça coûte excessivement cher, dans les 20 000 dollars par année. Je pense que ça, c'est inaccessible pour nos pays.
20 000 dollars par année, comparé aux 180 dont vous nous avez parlé tout à l'heure pour les traitements de première ligne.
Effectivement. Maintenant, par rapport au financement posé par Serge, c'est une réalité. Hein. Je pense que avec la crise financière et l'annulation du round 11 du Fonds mondial, ça a créé des répercussions quand même dans certains pays. Maintenant, on ne voit pas encore où on va, parce que on se rend compte qu'aujourd'hui, le Fonds mondial, tout comme le PEPFAR, qui est le programme
américain,
vont se concentrer sur 22 pays. Hein. Alors,
Vous êtes dans les 22 pays, par exemple ?
Nous, on n'y est pas. La Côte d'Ivoire y est, mais nous, on n'y est pas. Hein.
Alors, pourquoi,
maintenant,
d'ailleurs ?
Bon, je pense qu'il faut quand même qu'on essaie de voir comment essayer de créer l'équilibre. Hein. Parce que nous, à l'époque, on dénonçait ce choix, qui est un choix, à notre avis, qui est assez subjectif. Parce que nous avons pensé que dans cette épidémie, il faudra éviter de mettre des pays à un effet placebo, ne rien faire dans un pays. et laisser les autres, c'est-à-dire travailler dans 22 pays, je pense que ça peut rendre vulnérables aussi ces autres pays-là. Donc je pense qu'il faudra beaucoup discuter de cela. En tout cas, c'est un des combats que nous menons actuellement.
Si vous voulez bien, on y reviendra dans la deuxième partie de cette émission. Voilà. Sur la question des financements, que ce soit les financements internationaux et la question du coût des médicaments et des génériques. Mmh. On va parler plutôt dans cette émission de la question des co-infections. On y revient dans un instant.
Priorité Santé sur RFI.
Aujourd'hui, dans Priorité Santé sur RFI, on parle des co-infections à l'occasion des 7e rencontres Nord-Sud qui se déroulent demain à Paris avec un thème Sida en Afrique, stop aux tueurs négligés. Alors, on l'a dit là dans cette première partie d'émission, de gros progrès ont été réalisés dans l'accès aux traitements en Afrique, mais ces progrès ne doivent pas cacher les problèmes qui persistent. Un quart des patients ne sont pas maintenus dans des programmes dans les 2 ans qui suivent le début du traitement. Alors, pourquoi, Serge Ollier ?
Alors, c'est très important ce problème dit de rétention. Alors les patients, lorsqu'on vous parle des données des pays, on va vous dire qu'il y a un certain nombre de patients perdus de vue à 1 an ou à 2 ans. Mais dans ces perdus de vue, il y a a priori 50% d'entre eux qui sont décédés. Mais tant qu'on n'aura pas la réalité absolue de ces patients décédés, en termes de chiffres, pour frapper, pour montrer que c'est important de le dire, qu'on meurt encore du sida. Ce n'est pas encore une maladie banale, ce ne sera jamais une maladie banale, et on meurt encore du sida. Mais d'un point de vue programmatique, lorsque vous quantifiez des antirétroviraux pour 100 patients, que 25 d'entre eux n'atteignent pas la fin de l'année, c'est des médicaments commandés pour rien, mais il faut savoir de quoi ils meurent pour pouvoir les maintenir dans les programmes.
Et alors justement, de quoi ils meurent ?
Alors ils meurent, il y a 2 types de tueurs dans le sida. Il y a des tueurs dits rapides, je parlerai des maladies bactériennes, des invasives, de la tuberculose d'abord, qui est le premier tueur. Après, il y a les maladies bactériennes invasives et aussi les maladies à champignons, telles que la cryptococcose. C'est à peu près ces maladies-là que je verrais comme les tueurs rapides. Et puis, il y a des tueurs plus lents. On va parler des comorbidités, c'est-à-dire c'est un patient qui a 2 infections en même temps, mais 2 infections latentes qui durent. Il y aura donc l'infection à VIH et les hépatites B, ou l'hépatite B ou l'hépatite C. Et là, les patients vont mourir parce qu'ils ont survécu longtemps. C'est-à-dire le traitement antirétroviral leur a permis de vivre plus longtemps et vont se développer les autres maladies liées aux hépatites B et C. Pierre-Marie Girard pourra en dire un mot là-dessus. Et il y a aussi les maladies tumorales que l'on voit. Et plus loin, ce qui arrive dans un... À court terme pour nous, mais à long terme chez le patient affecté par le VIH, vont apparaître les maladies cardiovasculaires et les maladies rénales. Parce qu'il ne faut pas oublier que le patient qui vit avec le virus longtemps prend de l'âge. On a à peu près 15% des patients en Afrique qui ont plus de 50 ans lorsqu'ils débutent le traitement. Donc il y a toutes ces maladies qui vont arriver. Mais ce dont on parle...
Et c'est c'est le virus du VIH qui attaque justement et qui provoque des maladies cardiovasculaires ou c'est des conséquences aussi des traitements ?
C'est multifactoriel. Le virus lui-même est un tropisme pour... Tout ce qui est organes nobles, parce qu'il y a des récepteurs là-bas, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais le virus lui-même est un tropisme. Donc le virus peut être en tant que tel un tueur, effectivement, mais pas tueur dans le mot absolu, comme on parlerait des maladies bactériennes, de la tuberculose, mais peut avoir un effet délétère sur le cœur, le rein, le cerveau, les os. Mais il y a des infections aussi, qui, si elles ne sont pas contrôlées, peuvent avoir ces effets délétères sur le cœur et le cerveau.
Professeur Pierre-Marie Girard, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, je voudrais quand même insister sur... Serge Ollier vient de dire que ça pouvait être multifactoriel, certes. La première priorité, c'est quand même de traiter le VIH. Et tout à l'heure, il l'a évoqué, il a parlé de la stavudine, c'est un mot un peu compliqué, mais on est dans des deuxièmes générations de médicaments qui sont en train d'arriver et qu'il faut absolument qu'ils soient implantés complètement en Afrique.
C'est-à-dire des médicaments qui sont meilleurs avec moins d'effets secondaires.
Voilà, exactement. Et donc, le problème des effets secondaires, bien sûr, il existe. Avec tout médicament, il peut y avoir des effets secondaires. La priorité absolue, c'est de dépister le maximum de gens, mettre le maximum de gens sous traitement et maintenir les patients sous traitement. Parce qu'après, Des instants où on va mieux sous traitement, ce qui est la réalité du VIH, les gens sont transformés par le traitement lorsqu'ils sont traités alors qu'ils sont malades. Et après, il y a toujours l'idée, ah, peut-être que je suis en train de m'empoisonner sur le long cours en prenant des médicaments. Pas du tout. Ça sauve des vies, il faut le redire. C'est la priorité numéro un.
Je voudrais juste comprendre quand même qu'on comprenne bien ces liens entre les infections bactériennes, les hépatites et le sida. Clairement, ces infections bactériennes, elles se développent parce que le système immunitaire se dégrade?
Oui, exactement. C'est ça le principe de ce, le tueur majeur, c'est évidemment le VIH qui va détruire les défenses. Et donc, comme ces défenses sont détruites, les infections bactériennes et certaines tumeurs vont se développer et elles vont être dramatiques. C'est-à-dire que une infection qu'on pourrait en Afrique à peu près contrôler par exemple des infections du poumon ou digestives, lorsqu'on a un système immunitaire correct, vont avoir une évolution fulgurante. Et on voit très bien que les patients, notamment en Afrique, et c'est une différence avec les pays du Nord où c'est surtout des infections très particulières opportunistes, en Afrique, ce sont des infections relativement banales, des infections bactériennes qui vont être fulminantes. Et donc, il faut absolument qu'on ait un regard clinique et diagnostique et que les outils de laboratoire soient beaucoup mieux implantés pour de la médecine au quotidien, pour prévenir ces complications qui surviennent chez ces patients dont on ne sait même pas qu'ils sont infectés par le VIH.
Donc là, je comprends bien le lien entre ces infections bactériennes et le sida, mais quel est le lien entre les hépatites et le sida ?
Les hépatites, les deux grandes hépatites, quand on dit les hépatites chroniques, ce sont les hépatites B, en majorité, et les hépatites C. L'hépatite B, il faut savoir que dans la population en Afrique subsaharienne, vous avez 10 à 12% des patients qui sont infectés de façon chronique par le virus de l'hépatite B, parce qu'ils l'ont acquis souvent dans l'enfance ou l'adolescence, et malgré des programmes de vaccination contre l'hépatite B qui ne sont pas assez bien implantés, il y a eu des efforts qui ont été faits, mais la couverture vaccinale n'est pas assez bonne. Et l'hépatite C peut également se transmettre par les soins, par l'usage de drogue, qui est aussi une réalité dans certains pays d'Afrique. Donc vous avez une superposition des moyens de transmission, des méthodes de transmission, puisque l'hépatite B peut aussi s'acquérir de façon sexuelle. Donc vous avez
transmission. Mais ça s'ajoute finalement au sida, ce n'est pas une conséquence.
Ça s'ajoute. Là, ce n'est pas une conséquence, ça s'ajoute. Et la conséquence, c'est quand même l'évolution plus rapide de ces hépatites. C'est-à-dire le fait d'être infecté par le VIH et donc d'être co-infecté par un virus des hépatites entraîne une accélération du processus de dégradation du foie qui se termine par la cirrhose et le cancer, c'est des maladies mortelles.
Professeur Imbrane Doye, pour l'exemple du Sénégal, est-ce que vous avez une idée des chiffres de ces co-infections et lié à ça, quel est l'accès aux outils de diagnostic et aux traitements?
Bon, mais d'abord, je pense qu'il faut ajouter dans ce que mes collègues viennent de dire, il y a un aspect aussi important. Si aujourd'hui ces co-infections posent problème et sont importantes, c'est lié aussi au fait qu'en Afrique, on traite souvent tardivement les malades, n'est-ce pas? Parce que si le traitement est précoce, je pense que là, nous avons quand même moins de problèmes.
C'est-à-dire que les patients qui sont porteurs du VIH-Sida sont traités trop tardivement. Alors pourquoi?
En général.
Parce qu'ils arrivent trop tardivement dans les centres de santé ou parce qu'on décide de les mettre plus tard sous traitement? Le niveau de mise sous traitement, juste une réaction là-dessus, Pierre-Marie Girard, n'est pas le même dans les pays occidentaux et en Afrique, il faut quand même le dire, ça.
Premier frein, c'est le dépistage.
Voilà.
Et d'ailleurs, partout. On est aussi concerné. Voilà. Si on veut absolument diminuer la mortalité qui persiste dans les pays industrialisés, c'est l'accès au dépistage. Il y a en France 20 à 25 000 personnes qui ne savent pas qu'ils sont infectés par le VIH. En Afrique, c'est pareil, en beaucoup plus, parce que c'est difficile, la démarche du dépistage est difficile, il y a une crainte, il y a une stigmatisation, il y a une peur du diagnostic. Donc vraiment, le premier goulot d'étranglement, il est sur le dépistage.
Sur la mise sous traitement. Qu'est-ce qui me répond à ma question, Serge Ollier?
Je vais revenir sur le dépistage. Oui. Effectivement, d'abord, il y a un itinéraire thérapeutique qui est long. Ensuite, le dépistage de l'infection à VIH est vu aujourd'hui comme un moyen de diagnostic d'une maladie. Pas d'une maladie VIH, c'est quelqu'un qui est malade, qui vient à l'hôpital et on cherche l'infection à VIH. Ce n'est pas un dépistage de routine que l'on fait.
En se disant, j'ai pu prendre des risques, ce serait bien d'aller vérifier.
Ou bien, même, je suis dans un pays où il y a de l'infection à VIH, comme des patients vont chercher à savoir s'ils ont l'hépatite B ou C. Et derrière, un autre élément qui est important, un des freins majeurs, c'est le personnel médical, qui a peur de demander le test.
On va y revenir, si vous voulez bien, dans la deuxième partie de l'émission. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations.